Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Les Landes et du Ciel, émission proposée par l'Astroclub du Marsan pour vous faire découvrir notre univers. Je me présente Yves De Angeli et pour m'accompagner aujourd'hui, Michel Dauphin.
Bonjour.
Et Richard Bartek.
Bonjour.
Membre de l'Astroclub du Marsan. Aujourd'hui, nous partirons dans le passé pour comprendre comment les hommes ont appréhendé leurs environnements stellaires et comment ils ont réussi à développer les théories qui ont encore cours actuellement.
Oui, en fait, on connaît Copernic, Galilée, Einstein, mais avant nous, nos ancêtres les Gaulois, eux, avaient peur quand même que le ciel leur tombe sur la tête. En fait, les hommes ont apparemment rempli le ciel de dieux et de héros qui s'inspirent de ce qu'ils voyaient un petit peu dans le ciel, qui est posé au-dessus de nous, mais les ancêtres de nos Gaulois, les premiers hommes sur Terre, eux, faisaient-ils de l'astronomie ? Comment vivaient-ils le déplacement du soleil ou des astres nocturnes ?
Les premiers hommes, au début, se sont rendus compte que dans le ciel, il y avait des événements qui étaient cycliques. C'est-à-dire qu'ils ont vu des passages de points lumineux, plus ou moins lumineux, ils ont vu des positions de constellations, et ils se sont dit, il y a quelque chose. Donc ça leur a servi à rythmer leur vie quotidienne. C'est-à-dire que en fonction des saisons, en fonction de ce qu'ils voyaient dans le ciel, ils pouvaient se dire qu'il allait faire chaud, il allait faire froid. Cette idée en fait, de compréhension ou d'appréhension en fait, de l'univers, elle l'a vraiment développée au moment de la sédentarisation. C'est-à-dire que quand on est au néolithique, il y a environ 9000 ans, donc il a développé l'agriculture, l'élevage, les environnements, les populations restaient longtemps sur le même environnement et donc avaient vraiment le temps d'appréhender leur environnement et faire le lien entre le ciel et ce qui se passait dans leur vie quotidienne. Donc c'était une création d'espèces de calendrier, d'agenda, qui leur permettait de savoir ce qu'ils devaient faire bientôt, plus tard. Donc principalement, l'élément principal qu'ils ont repéré facilement, c'était la Lune. La Lune qui est un astre qui est très visible, et donc ils ont réussi à comprendre ou à suivre les phénomènes de Lune.
Et puis qu'est-ce qu'on en sait ? En fait, il nous reste des temps anciens, des vestiges qui démontre que nos ancêtres étaient attentifs aux choses du ciel, principalement le soleil et la lune. Par exemple, parmi les vestiges, on a trouvé dans un lieu nommé l'Abri Blanchard, un os d'aigle présentant des entailles qui correspondraient à des notations lunaires. Après, dans la grotte de Lascaux, une scène peinte, datée de 17 000 ans, représente ou représenterait le groupement d'étoiles des Pléiades, bien visible à l'œil nu, et des notions de zodiaque, la bande du ciel traversée par le soleil.
Oui, donc à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les premiers hommes, en voyant qu'il y avait des éléments qui étaient de leur quotidien, qui étaient sur Terre, et en voyant des phénomènes, on va dire, incompris, ils arrivaient à voir le phénomène, mais ils ne comprenaient pas la raison de ce phénomène-là. Le ciel est devenu mystique. C'est-à-dire qu'on a considéré que ce qui était sur Terre, c'était humain, et ce qui était dans le ciel était forcément le fait des dieux. Voilà. Donc le ciel a toujours été l'endroit où vivaient, quelle que soit la civilisation, où vivaient les dieux. Donc on a retrouvé énormément de traces de sépultures dans cette direction-là, qui expliquent que le ciel est mystique, que les dieux sont là-bas. On peut citer par exemple en France ou même en Allemagne, on a retrouvé des vestiges avec des cônes d'or, des chapeaux qui étaient des cônes d'or, qui devaient servir au sacrifice rituel pour le dieu soleil ou le dieu du ciel. On a retrouvé le disque de Nebra qui était en Allemagne, un disque de Nebra qui devait servir aussi pour des cérémonies religieuses qui représentaient la lune, le ciel, les phases, les constellations. Et très rapidement, on retrouve l'utilisation du ciel dans des cercles, ce qu'on appelle les cercles mégalithiques. Donc on va retrouver à Gossec, par exemple, il y a 7000 ans, un cercle en bois qui est théoriquement le premier observatoire solaire connu où les anciens, ils ne savaient pas comment fonctionnait le ciel, mais ont pris des repères et ont créé un cercle qui servait d'observatoire. On va retrouver en Égypte, à peu près dans la même époque, entre moins 6000 et moins 7000 ans, on va retrouver des cercles en bois aussi. On va retrouver à Stonehenge, qui est vraiment très, très classique, très connu. Stonehenge qui était peut-être un observatoire ou peut-être un lieu mystique ou les deux liés, mais on voit qu'il y a ce mélange entre les deux. On retrouve une nouvelle qui a été relativement récente en France. On a trouvé quelque chose qui daterait de 1000 ans avant Jésus-Christ, au nord de Dijon, un cercle qui ressemblerait à un cercle un petit peu de Stonehenge, avec des pierres percées qui expliqueraient les alignements et qui leur permettaient à eux aussi de générer, en fait, de comprendre leur calendrier, comprendre et gérer leur temps dans l'année. On trouve d'autres éléments, on peut citer les pyramides égyptiennes avec les alignements, on peut citer Newgrange en Irlande par exemple, où on a un couloir qui est sous un tertre de terre, on a un couloir, et il n'y a qu'au solstice d'été que le soleil traverse complètement le couloir et va allumer une stèle sacrée qui est au fond. Et sur les murs, on a des gravures qui pourraient penser à des calendriers. C'est-à-dire que tant que l'alignement n'est pas complet, ça fixait des dates dans le couloir.
Et à partir de là, on va arriver à ce qu'on pourrait appeler les premiers enregistrements. En fait, ce sont des indications sur les populations. Les civilisations se développent au fil des siècles. Et les Sumériens, par exemple, qui vivaient il y a 5300 ans avant Jésus-Christ, ils étaient en Mésopotamie, c'est-à-dire entre le Tigre et l'Euphrate, ce qui correspond à l'actuel sud Irak. Alors cela... Ils ont inventé l'écriture cunéiforme, ils ont développé les mathématiques et ils ont pris le temps d'observer les astres. Ils ont ainsi instauré la division sexagésimale du temps et des cercles. Enfin, astronomes, ils ont laissé sur les tablettes les fruits de leurs observations, comme quelques constellations caractéristiques, le lion, le taureau, le scorpion, le capricorne.
Oui, donc ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution des civilisations, même si les populations ne comprenaient pas ce qui se passait, pour leurs besoins quotidiens, ils ont noté tout ce qu'ils voyaient. Et ça leur a servi de base pour leur vie quotidienne, mais aussi ça nous sert de base maintenant, ou ça a servi de base aux astronomes de la Renaissance, pour se dire qu'on n'a pas un siècle ou deux siècles d'observation, on se retrouve avec 5000 ans, 5, 7, 8000 ans d'observation qui permettent de faire des calculs. Et les Babyloniens ont travaillé dessus.
Oui, en fait, si je comprends bien, il y a eu plusieurs civilisations qui ont imaginé un peu, ou qui ont enregistré un certain nombre de données, mais en même temps, ils ont essayé d'imaginer un peu ce que c'était notre environnement. Ils ont imaginé que la Terre était plate. Donc, il y a des choses qui commençaient à prendre forme, des certaines théories, que la Terre était située au centre du monde. Donc, c'était des tentatives déjà un petit peu d'explication, de théorisation de ce qu'ils voyaient un petit peu, ce qu'ils avaient enregistré.
Oui, tout à fait. C'est qu'ils avaient, à force de faire des relevés, ils réfléchissaient quand même et ils proposaient des possibilités. C'est-à-dire que par rapport, avec un recul, quand on prend entre les Sumériens ou Babyloniens, qu'on va parler juste après, on a 4000 ans, quoi. Donc en 4000 ans, il y a eu vraiment de l'information. Et donc, ils ont essayé de se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Et chacun allait en direction d'une théorie. Mais une théorie qui n'était pour l'instant qu'une vue de l'esprit, qui n'était pas une théorie qui était posée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de preuves mathématiques, physiques, etc., pour dire qu'effectivement, c'était comme ça que ça se passait. Donc, ça travaille comme ça. Le premier calendrier, on regarde, il date de Babylone. En moins les Babyloniens, ce qu'on appelle les premiers Babyloniens, donc ça date à peu près à moins 1900, eux, ils ont déjà fait un premier calendrier. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait un cycle du Soleil, ils ont vu qu'il y avait un cycle de la Lune. Ils ont dit, la Lune, c'est assez court comme temps, donc on va dire que c'est un mois. Et que le Soleil, on le retrouve dans le même endroit du ciel qu'une fois tous les ans. Donc on a la base du premier calendrier, qui est un calendrier lunisolaire, où en fait, on a les mois, c'est les mois de lune, les phases de la lune, un cycle complet, et l'année, ce serait un cycle du soleil. Bon, c'est encore été utilisé après dans d'autres civilisations. Il faut de temps en temps, comme tous les calendriers, rajouter un petit mois de temps en temps, parce que c'est... Voilà, la lune, c'était des mois qui faisaient entre 29 et 30 jours, une lunaison, c'est 29 jours et demi. Donc si on fait 29 jours et demi x 12, il nous manque une dizaine de jours dans l'année. Donc régulièrement, il fallait remettre un petit mois de temps en temps pour recaler, quoi. Mais c'était vraiment la base qui a servi sur les premiers calendriers. Et plus ça allait, plus les gens ont réutilisé les informations des populations qui étaient avant eux et qu'ils ont affiné. Par exemple, les Assyriens, donc 1000 ans après, les Assyriens, ben, ils ont noté précisément la durée des jours et de la nuit. Donc on avait déjà cette notion que, ben, que ça soit, quelle que soit la saison, le jour et la nuit n'ont pas la même durée. Pourquoi ? Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils avaient déjà repéré ça. Et donc ça servira à d'autres. Ils ont relevé les positions des astres qui, en dehors de la Lune et du Soleil, qui n'étaient pas tout le temps à la même place. Donc ils ont appelé ça les planètes, parce que c'est des astres errants. Ils ont dit, voilà, ben, on va relever tous les points lumineux. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais on le relève. Et donc, petit à petit, ben, les gens affinent un petit peu, et siècle par siècle, ils affinent. En peu près en moins 600, on a découvert qu'il y avait un cycle particulier pour la Lune, ce qu'on appelle le cycle de Méton, et qui permet de prédire, c'est un cycle qui fait 18 ans, et en fait, tous les 18 ans, on a les mêmes cycles de Lune, voilà, qui sont présents. Et le premier avance, la première avancée qu'on pourrait trouver, c'était en moins 200 à peu près, enfin moins 190. Avec toutes ces recherches, ces millénaires de recherches, il y a un astronome qui a dit, qui a donné sa première idée de la théorie des marées, qui expliquait cette théorie des marées. Parce qu'il avait vu que quand la Lune était présente avec un certain format, la mer était haute. Et que quand, voilà, donc il expliquait l'attraction de la Lune, sans aucune notion mathématique, mais il a dit, voilà, il y a un système de marées qui est lié à la Lune. Et en prolongement de tout ça, il s'est dit, ben, si le système de marées qui est chez nous est lié à la Lune, ça veut dire que le Soleil a un rôle important, et qu'on pensait que la Terre était au centre de l'univers à cette époque-là. Lui, il a dit, ben non, pour que ça fonctionne, ce serait bien que le Soleil soit au centre, c'est pas la Terre. Donc c'est le premier qui a sorti un truc héliocentrique, le système héliocentrique. Personne n'a écouté, bien sûr, mais c'est le premier qui l'a sorti, basé uniquement sur des observations empiriques faites par les populations qui étaient précédentes.
C'est comme ça qu'on s'aperçoit que les vues et les compréhensions du ciel, elles diffèrent selon les cultures. Dans la Grèce antique, par exemple, de moins 1000 à moins 300 avant Jésus-Christ, les philosophes font progresser les mathématiques et la géométrie surtout. Mais en astronomie, ils imaginent un univers étagé sur plusieurs niveaux. Ainsi, la Terre est plate, comme tu disais, et elle flotte sur le fleuve océan. Le ciel aussi repose sur un océan. Quant aux objets et choses du ciel, ben ce sont simplement des phénomènes atmosphériques. De toute manière, on ne sait pas les expliquer autrement. En Inde, par exemple, le monde est porté par 4 éléphants. Sur le dos d'une tortue géante, Vishnu, elle-même est emmenée par un serpent géant, Seshan. En Égypte, Ré est le dieu solaire, créateur de l'univers. Il traverse chaque jour le ciel dans une barque sacrée et affronte pendant la nuit les démons des ténèbres. Chaque matin est une victoire de Ré sur les ténèbres et les éclipses sont une défaite qui est vite renversée.
Donc une fois qu'on est passé, on évolue, on commence à se rapprocher un petit peu de nous, on a l'astronomie grecque, on a en gros 2 écoles de philosophie. Tout le monde connaît les écoles de philosophie grecque. Philosophie, ça veut dire amour du savoir, hein, c'est-à-dire essayer de trouver un petit peu l'environnement, comprendre l'environnement. On a Pythagore avec son équipe pythagoricien. Donc eux, ils essaient de prendre l'univers et trouver des mathématiques. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le ciel doit avoir une explication mathématique. Et on a Thalès, qui était plutôt en Asie mineure. Pour lui, c'est plutôt de l'explication physique. Donc on a ces 2 écoles qui vont travailler sur les phénomènes d'une manière différente. Et l'intérêt, c'est qu'on va quand même réussir à la fin à ce que ces 2 écoles se retrouvent. Mais chacun va essayer d'expliquer.
En même temps, on était confronté aux croyances, les dieux qui agissaient, etc. etc. Comment on a pu faire la bascule progrès pour dire non, ce n'est pas forcément le régime des dieux, mais c'est le régime de la nature.
Ben, les dieux sont restés présents dans la conception de l'astronomie et de la cosmologie jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait effectivement ce côté un petit peu théorique à dire que le dieu était là, c'est le dieu qui avait tout fait. Mais d'un autre côté, on avait ces écoles philosophiques qui se déconnectaient un petit peu de la religion et des dogmes qui essaient de poser les informations. Il n'y avait pas cette contradiction qu'on pourrait retrouver sur l'Inquisition, par exemple. Contradiction où c'est Dieu ou rien, ou c'est la science ou rien. En fait, c'est deux parties qui travaillaient ensemble, où chacun avait essayé de trouver une réponse et des solutions. Donc on va arriver sur la Grèce antique, on va développer, on va continuer ce travail-là. étant donné qu'on maintenant on dispose des outils mathématiques avec Thalès et puis avec Pythagore, l'idée ça va être de créer des instruments de plus en plus précis. Plus l'instrument est précis, plus les mesures sont précises, plus les analyses qu'on peut faire pourraient être bonnes.
Et il y a des gens qui les utilisent, comme Anaximandre de Milet. Alors lui, il vivait de moins 610 à moins 546. On est encore dans la grecque ancienne, antique. Alors lui, il avait imaginé un univers sphérique. La Terre était cylindrique et suspendue dans l'espace, et stationnaire, parce qu'elle n'avait pas aucune raison de bouger. Rien ne la supporte. C'est la première évolution cosmologique, parce que pour une fois, on n'est plus sur l'eau. Il conçoit le Soleil comme une masse énorme, et donc très éloignée de la Terre. Donc, par la suite, c'est une acceptation que les astres soient à des distances différentes. D'autre part, ce que l'on sait de ses travaux nous amène à penser qu'il avait compris l'inclinaison de la Terre, ce qui provoque les saisons.
Ces débats philosophiques, on en a tout le temps dans toutes les... Dans tous les domaines et à toutes les parties en fait de cette évolution, on a du débat et donc pour Aristote, qui est très connu, Aristote, pour lui il y avait deux parties, il y avait la partie terrestre qui était corrompue, qui était pas bien, toute la partie qui était au-dessus du ciel était parfaite. Donc Aristote, il essaie de trouver des solutions pour expliquer tout ça. Il fait des systèmes avec plein de sphères transparentes sur lesquelles il y a les planètes posées qui tournent les unes autour des autres, etc., etc. Dans l'idée simplement d'essayer de reproduire en fait ce qui se passait. Ça n'a pas très très bien marché parce que c'était très compliqué, mais on essayait de reposer tout le temps cette solution. Quoi.
On avance encore dans l'histoire, puisque Héraclite Dupont, alors lui il est mort en 310 avant Jésus-Christ, lui il a émis l'hypothèse selon laquelle le Soleil et les planètes externes, je dis bien externes, tournent autour du système Terre-Lune. Par contre, les planètes internes, Mercure, Vénus, tourne autour du Soleil. Cette vision sera reprise par Tycho Brahe bien longtemps après, et les jésuites contre l'idée de Galilée.
Aristarque de Samos, d'autres scientifiques, en fait, ont continué à travailler. On a utilisé les mathématiques, faire des mesures de la Terre, des distances Terre-Lune, Terre-Soleil, etc. Utilisant Pythagore, tout le monde connaît Pythagore, hein, ça nous a assez travaillé quand on était petit. Donc on connaît, bon, en prenant ces trucs très simples, sans s'embêter avec d'autres considérations, ils arrivent quand même à faire des mesures. Bon, les mesures sont fausses pour des problèmes d'instrumentation qui sont pas assez précis, mais l'idée psychologique, la méthode de réflexion est très bonne, et donc il arrive à faire des mesures qui correspondent à peu près à... Il y a des taux d'erreur importants, mais qui correspondent à la technique qu'on utilise encore actuellement. Et c'est là que va sortir le premier système héliocentrique. Parce que quand il va faire ses mesures, il va se rendre compte que pour que les mesures qu'il fait fonctionnent, ça veut dire que le Soleil doit être énorme. Et donc il se dit, c'est pas possible que le Soleil qu'on considérait petit et la Terre plus grosse tourne autour. Il s'est dit, si on a un objet qui est hyper massif, c'est lui qui tient le centre et la Terre va tourner autour. Donc lui, avec ce calcul-là, il dit cette idée-là, mais ça s'arrête là.
Encore pas un peu plus près de nous, on a Ératosthène. Alors lui, il reprend Anaximandre avec son idée de saison et il détermine l'inclinaison justement de l'axe de la Terre. Il le détermine à 23 degrés 51 minutes. C'est pas loin de la réalité. Il entreprend la mesure de la taille de la tête par l'expérience fondée sur la longueur de l'ombre à midi, le jour du solstice d'été. Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre, à un endroit situé sur un méridien connu et à une distance connue du tropique du Cancer. Là où à midi, à cette heure précise, il n'y a pas d'ombre puisque le soleil est vertical. Il trouve que la Terre est inclinée de 23 degrés 51 minutes et mesure 39 375 km de circonférence. La valeur vraie est de 40 075. Il est considéré comme le plus grand savant du 3e siècle avant Jésus-Christ.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. universe. Let's meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jaiguru.
Donc, on voit là encore un petit peu dans, dans l'histoire, un petit peu de ce qui s'est passé dans le monde. Là, on va arriver à un moment où on arrive à la fin, en fait, de cette époque grecque, où on a tellement de connaissances qu'on peut arriver à les poser. Le premier élément qu'on va retrouver, c'est peut-être Hipparque de Nicée, mais c'est l'astrolabe. L'astrolabe, c'est un élément qu'on connaît maintenant, qu'on a retrouvé, qui s'est énormément développé dans le monde arabe et qui s'est développé pendant la Renaissance, qui est une carte du ciel. Et un autre élément qu'on a retrouvé, c'est par hasard, on a retrouvé une machine qui s'appelle la machine anticitaire. Je veux simplement vous dire rapidement ce que c'est. On aura l'occasion de faire une émission directement là-dessus parce que c'est vraiment hyper intéressant et questionnant. On a retrouvé une machine qui daterait d'Archimède. Ce serait Archimède, ce serait peut-être Hipparque, qui aurait créé une machine qui est en fait un ensemble d'engrenages comme une montre qui peut nous donner la position de toutes les planètes, de toutes les éclipses. On peut prévoir tout. Ça datait d'un élément, c'est quand même très très vieux, et qu'actuellement, pour l'instant, personne n'est capable de reproduire cette machine-là. Donc on se pose la question de savoir, mais ce sera l'occasion d'une autre émission particulière.
Donc finalement, on voit qu'avec tous les relevés de mesures qui ont existé depuis les temps les plus anciens, on arrive à, quand même à construire quelque chose d'un petit peu réaliste, et aussi le développement des mathématiques, si j'ai bien compris, le développement des sciences, ouais. Qui permet un petit peu d'affiner les deux hypothèses de départ, l'héliocentrisme ou au contraire le centre de la Terre. Et est-ce qu'il y a eu des instruments déterminants pour effectivement progresser davantage encore, ou des hommes qui ont rassemblé un petit peu toutes ces mesures et en ont fait quelque chose d'intéressant pour la science? Je pensais à Tycho Brahe et son disciple Kepler.
Ouais. Bon, on va retrouver en intermédiaire, on va retrouver le monde arabe, parce qu'à la fin du monde grec, on s'est retrouvé un petit peu... le monde arabe a récupéré tout l'ensemble des données et les Arabes ont quand même fait du travail dessus pour collationner toutes ces informations.
Oui, justement, le monde arabe, le monde de l'islam, va se baser principalement sur l'Almageste de Ptolémée et puis des mathématiciens et des astronomes comme Al-Battani, Al-Sufi, Al-Biruni vont affiner toutes ces mesures. Ils vont corriger toutes les erreurs de l'Almageste. Ils vont affiner l'orbite, l'obliquité de la Terre, la durée de l'année. Ils vont composer, ils vont faire des dessins du ciel avec des situations de constellations, le nombre d'étoiles, leur magnitude, leur couleur et leur distance, et affiner aussi la rotation de la Terre.
Donc on se retrouve dans un cycle où, à la fin de l'Empire grec, donc l'Empire byzantin, Les Byzantins, il y en a beaucoup qui sont repartis en fait sur l'Italie. On se retrouve sur le monde arabe où le monde arabe avait commencé à conquérir ou être présent, on va dire, dans le sud de l'Europe, dans l'Espagne, même sur le sud de la France. Et toutes ces informations, soit qu'elles venaient du monde byzantin, soit elles venaient du monde arabe qui ont été évoluées, et ben ça va faire qu'à la Renaissance française, on aura des scientifiques, principalement des religieux, qui vont collationner tout ça et donner leurs premières théories.
Voilà. Et puis là, on va arriver sur Copernic, par exemple, qui lui, c'est un fils de bourgeois. Hein. Il a fait beaucoup d'études en Italie. Donc, il a appris les Grecs, il a appris les Romains. Et il s'est aperçu que le modèle de Ptolémée, avec la Terre au milieu de l'univers, ça ne marchait pas du tout avec les observations. Donc, il va essayer de mettre le Soleil au milieu. Et là, ça marche, presque. Il y a encore quelques petits détails, mais ça marche. Ça marche déjà beaucoup mieux.
Donc Copernic a eu des petits soucis, hein. On peut dire que on est dans une époque troublée. Quand tout à l'heure tu parlais un petit peu de problèmes entre la religion, le dieu et puis la réalité, dans cette époque-là, il fallait être d'accord avec la religion. Donc Copernic n'a pas voulu proposer son système. Il écrit dans un livre et avec absolue nécessité que le livre soit publié quand il serait mort, pour éviter d'avoir des problèmes avec l'Inquisition. D'autres avaient essayé avant, ils ont été brûlés, donc c'était pas vraiment top. Donc on voit qu'on a encore ce petit écart-là. Le scientifique suivant qui a beaucoup évolué, c'est Tycho Brahe. Tycho Brahe, c'était un scientifique qui n'était pas vraiment astronome, pas vraiment mathématicien, mais qui avait cette petite vision de l'astronomie et qui a réussi à se faire financer un observatoire géant au Danemark, avec des instruments très très grands qui permettaient de faire des mesures très très précises. Et lui, il a sorti des informations avec ses instruments très précis. Il a pu voir qu'il n'y avait pas de différence. Il y a eu une supernova, donc c'est une étoile qui a explosé. Il a regardé cette supernova, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de parallaxe. Alors le parallaxe, rapidement, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde connaît l'histoire. Vous mettez un doigt devant vous, vous regardez un objet, vous fermez un œil, vous changez d'œil. Ce que vous regardez, ce n'est pas le même truc. Ce n'est pas le même endroit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le parallaxe en astronomie. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de parallaxe. Ça voulait dire qu'on pensait que les étoiles étaient très proches de nous, et avec cette technique du parallaxe, il s'est rendu compte que les étoiles étaient très loin. Donc il a prouvé que les étoiles, tout ce qu'on croyait que les étoiles étaient proches, ce n'était pas vrai, elles étaient très loin. Et avec d'autres mesures, il s'est rendu compte que déjà les étoiles elles étaient très très lointaines, que la Lune était plus loin qu'on le pensait, et ainsi de suite. Et donc c'était le premier. Pourtant, il n'était pas un vrai scientifique. Hein. Vraiment, lui, pas du tout. Il serait mort à la fin avec un concours de bière qui aurait mal tourné. Ou c'est un concours, on boit autant de bière qu'on veut sans aller uriner. Et celui qui tient à gagner, lui, il est mort. Voilà, c'est tout simplement. Mais il avait un disciple.
Oui, alors c'était Kepler, le grand Kepler. Lui, il revient sur le modèle de Copernic. Et puis, il s'interroge beaucoup pourquoi ça ne marche pas. Et il a une idée, d'un seul coup, c'est de non pas de mettre des trajectoires circulaires pour les planètes, mais elliptiques. Et là, miracle, tout correspond aux observations. Et c'est à partir de là, il va émettre trois lois très très importantes. Ce sera les lois de Kepler.
L'astronome suivant qui a été vraiment hyper important, c'était Galilée. Lui, c'est un pas énorme. Le pas de Galilée, c'est simplement d'avoir modifié une lunette pour qu'on puisse voir réellement. Avant, on voyait rien, on estimait des trucs. Et maintenant, là, on peut directement aller voir l'objet et ça valide tout ça. Il a fait des grosses découvertes, il a remis à plat tout ce qu'on pensait, et lui il a réussi à prouver que c'était le système héliocentrique avec le soleil au centre était vraiment le meilleur système.
Et lui on l'a cru ?
Il a pas dit trop fort, comme ça on l'a cru.
Oui, après on aura encore l'un des grands de l'astronomie qui va s'appeler Isaac Newton. Alors lui il va mener des études sur la lumière et va trouver qu'elle est composée de couleurs différentes, mais il est surtout principalement connu pour sa célèbre Principia Mathematica. Ce sont les lois de la gravitation universelle. Et c'est lui qui va déterminer la position et le déplacement des planètes autour du Soleil.
Donc on voit, on est passé rapidement, hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, à la base, en partant des Sumériens et en arrivant jusqu'à notre ami Newton, ce qu'on fait actuellement, Edmund Halley, il a trouvé sa comète et qu'il a dit qu'elle repasserait dans quelques années, c'est grâce à Kepler. Le Verrier qui a découvert une planète qu'on ne voyait pas à l'œil nu, c'est grâce au calcul de Newton. On peut regarder Fraunhofer, qu'on fait la spectroscopie, c'est ce qui permet de savoir comment une étoile fonctionne, comprendre les réactions qui se passent dans une étoile. identifier la matière. Donc on se rend compte que tous les scientifiques actuellement qui font des grosses découvertes, eh bien, ils les font grâce à ces gens-là qui ont travaillé avant. Donc c'est ce qu'a fait dire à Isaac Newton que si j'ai pu voir plus loin, c'est que je me tenais sur les épaules des géants. Et la science, c'est ça. C'est qu'on utilise toujours ce qui est avant pour montrer ce qu'on connaît maintenant, et le développement n'arrête pas d'avancer. Donc on va vous donner quelques actus astro qui sont importantes à voir sur le mois qui va arriver. On a une comète qui prévoit d'être très très belle à regarder. On l'a vu dans l'hémisphère sud, elle va arriver à partir de maintenant. Elle s'appelle Chu-Chin-San Atlas. Bon, les comètes, c'est le nom du découvreur, donc bon, c'est compliqué. Elle va être visible à l'horizon ouest avec une hauteur de 20 degrés à peu près sur l'horizon, avec une belle luminosité, donc on commencera à la voir d'ici les prochains jours. Normalement, on espère voir la chevelure, donc ça devrait être pas mal. On a quelques conjonctions, des rapprochements. Le 15, au moment du passage de l'émission, vous pourrez regarder la Lune qui va être juste à côté de Jupiter. On aura la Lune qui va passer à côté des Pléiades. On aura la Lune qui passera à côté de Mars. Tout ça au cours du mois. Et on aura un maximum d'étoiles filantes le 21 octobre, les Orionides. On aura le même spectacle qu'au mois d'août, mais bon, il fait un peu plus frais, donc il faudra prendre un petit pull. Donc lors de la prochaine émission, nous partirons en exploration dans notre système solaire pour y découvrir tous les objets qu'il compose. Donc retrouvez-nous en podcast sur Radio MDM ou passez-nous voir le mardi soir et le vendredi soir pour partager le ciel. Toutes les infos sont sur notre page Facebook Astro Club du Marsan. Bon ciel à toutes et à tous et à très bientôt.
À bientôt.
Bye bye.
C'était Les Landes et du Ciel, une émission proposée par l'Astro Club du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.